Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'était le procès d'une nébuleuse, et ce que dit cette décision, c'est que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement.
De 4 ans de prison à la perpétuité pour les 14 accusés, le verdict est tombé au procès des attentats de janvier 2015. Verdict mesuré qui restera dans l'histoire pour les avocats des victimes de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. La campagne de vaccination contre le Covid pourrait commencer en France dès la fin du mois. Jean Castex et Olivier Véran ont détaillé devant l'Assemblée la stratégie vaccinale du gouvernement. Le masque, partout, tout le temps, même pour le repas de Noël en famille. Recommandation de l'OMS qui craint une troisième vague en Europe dès le début de l'année prochaine. En attendant, l'Allemagne subit de plein fouet la deuxième vague, le pays se reconfine et dans les hôpitaux, on commence à trier les patients. Dans ce journal également, la mère de Fiona dort ce soir en prison, Cécile Bourgeon condamnée à une peine plus lourde que son ex-compagnon. Malgré le stress et la pollution, nous vivons plus vieux en ville qu'à la campagne, la faute aux déserts médicaux et puis le foot, Rennes-Marseille, PSG-Lorient, deux matchs en cours, nous irons sur place. Le temps de demain, retour de la pluie avec le passage d'une perturbation, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,31% à 5 547 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. Et puis l'interview Echo dans 20 minutes. Pour la première fois de son histoire, le Bitcoin a dépassé les 20 000 $. Comment expliquer un tel intérêt pour cette crypto-monnaie? C'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité, Christopher Dembick, chef économiste chez Saxo Bank.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après 3 mois d'audience, 54 jours de débat, la Cour d'assises spéciale de Paris a donc rendu son verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. Procès souvent décrit comme historique de par son ampleur et la charge émotionnelle ravivée. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher. 3 jours d'horreur au cours desquels 17 personnes ont perdu la vie sous les balles islamistes. La justice s'est donc finalement prononcée et les peines pour les 14 accusés vont de 4 ans à la perpétuité, Gladys Laffitte.
Oui, 30 ans de réclusion. Conclusion pour l'accusé principal de ce procès, Aliriza Polat, contre qui avait été requis la prison à vie. Pour la Cour, il est donc coupable de complicité de crimes terroristes. Il a eu un rôle particulièrement actif et transversal dans la préparation des attentats de ce mois de janvier 2015. Autre peine lourde, 13, 18 et 20 ans de réclusion prononcés contre 3 hommes. La Cour a jugé qu'ils avaient apporté un soutien logistique incontestable et déterminant à Mehdi Coulibaly. Ils avaient pleinement connaissance de l'existence de son projet terroriste, même s'il n'en connaissait pas les détails. Voilà pour les peines les plus lourdes. Pour 6 autres accusés, les peines vont de 4 à 8 ans de prison. Oui, ils ont apporté un soutien logistique, mais la qualification terroriste n'a pas été retenue, contrairement à ce qu'avait demandé le parquet antiterroriste. C'est-à-dire que la Cour a estimé qu'ils ne connaissaient pas la nature terroriste du projet d'Amédi Coulibaly. Ont aussi été condamnés les grands absents de ce procès, présumés morts ou en fuite, la perpétuité pour le mentor religieux d'Amédi Coulibaly et 30 ans de réclusion pour Hayat Boumediene, sa compagne. Voilà pour ce verdict d'un procès historique, verdict dont le principal accusé, Aliriza Polat, va faire appel.
Gladys Laffitte qui a suivi pour nous ce procès des attentats de janvier 2015, procès marqué notamment par la vibrante plaidoirie de l'avocat de Charlie Hebdo. Charlie est devenu une idée, on ne la tuera plus, avait plaidé Richard Malka. Il espère ce soir que ce verdict provoquera une prise de conscience.
Ce qui est peut-être plus important, c'est le message qui est délivré par la société française au travers de sa justice. C'était le procès d'une nébuleuse, une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes. Et ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Et que toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. C'est la fin de quelque chose aujourd'hui, ça a été douloureux, incandescent. C'est la fin de quelque chose, mais j'espère aussi que c'est le début d'autre chose. J'ai senti, je crois, en tout cas je l'espère, une prise de conscience, un éveil, une envie d'agir citoyenne contre un danger qui tue, qui veut imposer la peur et la terreur.
Maître Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, micro Europe 1 de Justin Morin.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Jean Castex et Olivier Véran ont présenté cet après-midi à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale contre le Covid, stratégie conditionnée par la décision de l'Agence européenne des médicaments qui dira lundi si elle autorise ou non le vaccin Pfizer. Et si le feu est vert, Anne Le Gall, la campagne de vaccination en France débutera très rapidement.
Oui, Jean Castex a précisé le calendrier. Dans la foulée de l'autorisation de mise sur le marché et du feu vert de la Haute Autorité de Santé, les premières vaccinations pourraient avoir lieu dans les EHPAD dès la dernière semaine du mois de décembre. Cette vaccination s'étalera sur une période de 6 à 8 semaines avant un rappel du vaccin au bout de 21 jours. C'est un immense espoir, a rappelé Olivier Véran, qui a voulu rassurer sur la sécurité du vaccin.
J'entends que le vaccin a été produit trop vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trop vite. Où le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace, alors c'est une chance pour les malades. Où il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend et on cherche un autre traitement.
1 million de personnes seront concernées par cette première vaccination qui se fera après bilan médical, consentement et en présence d'un médecin. Ensuite, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux vaccins, les injections seront élargies aux personnes âgées à domicile, en commençant par les plus fragiles et les plus de 75 ans. 14 millions de personnes seront concernées par cette deuxième phase, et chacun pourra se faire vacciner près de chez lui, a précisé Jean Castex. Le dispositif s'appuiera essentiellement sur les médecins généralistes.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Des Français se feront donc peut-être vacciner avant la fin de l'année, mais la période des fêtes n'en sera pas moins à haut risque. Voilà pourquoi l'OMS recommande le port du masque, même lors des réunions de famille à Noël, Ève Roger.
Et oui, pendant le réveillon et même pendant toutes les vacances quand il y aura des fêtes. Et ce qui est encore plus inquiétant pour nous, c'est que ce message est destiné aux Européens. Et selon l'OMS, le risque d'une reprise épidémique est élevé en Europe au début de l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on sent l'inquiétude monter de toutes parts autour de ces repas en famille ou entre amis, alors qu'il fait froid et qu'ils se font en lieu clos. Un cocktail à haut risque de contamination, selon une étude pas encore publiée de l'Institut Pasteur. Hier, le Conseil scientifique préconisait déjà de prendre des précautions avant Noël, s'auto-isoler une semaine avant le réveillon pour les adultes comme pour les enfants, faire des tests avant d'aller retrouver ses parents ou ses grands-parents. Aujourd'hui, l'OMS préconise de se rassembler plus tôt à l'extérieur, et si ce n'est pas possible à l'intérieur, en insistant sur la ventilation, la distanciation physique et le port du masque, donc même avec sa famille. Ça peut paraître gênant, reconnaît l'OMS, ridicule, même me disait tout à l'heure un médecin santé publique, mais ça peut sauver des vies si l'on est entouré de personnes âgées ou fragiles.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. C'est un pays qui a longtemps été cité en exemple. L'Allemagne est depuis ce matin reconfinée partiellement. Écoles et commerces non essentiels resteront fermés jusqu'au 10 janvier. Il faut dire que les derniers chiffres de l'épidémie outre-Rhin sont catastrophiques. Plus de 27 000 nouveaux cas et près de 1000 morts ces dernières 24 heures. Record absolu. Tous les signaux sont au rouge, à commencer dans les hôpitaux, Hélène Cole.
Oui, au dernier pointage ce matin, on atteint ce chiffre impressionnant. 80% des 30 000 lits de soins intensifs sont déjà occupés ici en Allemagne. Et plusieurs hôpitaux l'ont signalé dans la journée. Ils ont commencé à trier les patients après avoir dans un premier temps envoyé leurs malades vers d'autres villes. Désormais, les services doivent refuser d'en intuber certains, les plus âgés notamment, pour laisser la priorité à d'autres. C'est dans l'est du pays que la situation est la plus critique. Situation hors de contrôle, disent même les autorités sanitaires, avec des taux d'incidence qui ne cessent de progresser à plus de 600 à Bautzen, 700 à Görlitz, tout ça c'est en Saxe. Le virus frappe surtout dans les maisons de retraite, c'est dire si les mesures de restriction prises début novembre ont été un échec, car normalement elles auraient dû protéger les personnes les plus vulnérables, mais elles n'étaient pas assez strictes ou alors pas assez bien appliquées. Elles sont intervenues trop tard aussi, notamment à cause de la résistance des Länder qui sont aujourd'hui les plus touchés par l'épidémie, d'où ce nouveau tour de vis. Dans certaines régions en plus, il y a aussi un couvre-feu la nuit, un nouveau train de mesure bien compris par la population. 81% des Allemands estimaient la semaine dernière qu'il fallait durcir les règles.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, où le gouvernement allemand annonce ce soir la date du 27 décembre pour le coup d'envoi des vaccinations. Information importante vu que les campagnes doivent débuter au même moment partout en Europe.
Europe Soir, Julien Pierce.
Un verdict et une surprise au procès en appel de l'affaire Fiona. La mère de la fillette tuée en 2013 a été condamnée à une peine plus lourde que son ex-compagnon. 20 ans pour Cécile Bourgeon, 18 pour Berkan Makhlouf. C'est pourtant lui qui a donné les coups mortels, avait expliqué l'avocat général. Mais le parquet avait aussi relevé la personnalité caméléon de Cécile Bourgeon, son manque d'affect et sa complicité dans la mort de la petite Fiona dont le corps n'a jamais été retrouvé. Jean-Luc Bougeon, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Est-ce qu'il a permis de lever tous les doutes ?
Alors tous les doutes, non, hein, mais pour la première fois, la responsabilité de la mère dans la mort de la fillette est établie par ce verdict. Il faut se souvenir qu'en première instance, Cécile Bourgeon n'avait été condamnée qu'à 5 ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Cette fois, elle est clairement désignée comme la responsable de la mort de sa fille, comme celle qui a organisé les violences. Elle est donc davantage coupable encore que son ex-compagnon, Berkane Makhlouf, qui lui pourtant a reconnu les coups, mais qui n'écope que de 18 ans. En tout cas, tous les deux partent ce soir en prison et ça, c'est une satisfaction pour Nicolas Chafoulet, le père biologique de Fiona.
Je suis content qu'ils retournent tous les deux en prison. Je trouve que c'est merveilleux qu'elle en prenne plus que lui. Depuis le début, je pense que c'est elle l'instigatrice. Elle tape et lui tape aussi. Ils sont deux responsables. Donc je pense que la peine est juste, ouais.
Voilà, Cécile Bourgeon qui paye sans doute aussi son attitude froide, insensible et arrogante à la barre depuis 15 jours, ce qu'a du mal à admettre son avocat, maître Renaud Portejoie.
C'est une décision que je trouve absurde. Cécile Bourgeon cristallise encore aujourd'hui tous les fantasmes. C'est la mère, c'est celle qui a menti, c'est celle qui ne retrouverait pas le corps de sa fille. Donc elle cristallise tout et on ne lui pardonne pas ce qu'elle a pu faire, on ne lui pardonne pas ce mensonge et on lui fait payer judiciairement. Sans surprise, hein, un pourvoi en cassation va être régularisé dès demain. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura immanquablement un cinquième procès Fiona.
Voilà, alors à voir, hein, c'est la Cour de cassation qui décidera de cela dans les prochaines semaines.
Jean-Luc Bougeon aux Assises du Rhône. C'est une information en repin. Les pilleurs des boutiques parisiennes ont été arrêtés ce matin. 11 personnes, dont 3 mineurs, placés en garde à vue. Les images de leur dernière attaque avaient été largement relayées sur les réseaux sociaux. On y voyait plusieurs hommes entrer dans un magasin, se servir directement dans les rayons et repartir sans payer. En 2 mois, les suspects auraient commis pas moins de 6 attaques dans des boutiques de luxe, toujours avec le même mode opératoire. Le luxe qui a aussi ses travers, le groupe Kering est visé en France par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Le propriétaire des marques Yves Saint Laurent, Gucci ou encore Balenciaga aurait déclaré en Suisse des activités menées dans d'autres pays, principalement en Italie. Le groupe dirigé par François-Henri Pinault aurait ainsi éludé 2,5 milliards d'euros d'impôts entre 2010 et 2017. C'est une tendance qui s'est fortement accélérée à la suite du premier confinement. De plus en plus de citadins partent vivre à la campagne. Moins de stress, moins de pollution, parfait pour être en bonne santé. Eh bien, ce n'est pas aussi simple, c'est même tout l'inverse. Selon une étude commandée par l'Association des maires ruraux de France, l'espérance de vie des habitants des villes est plus grande que celle des habitants des champs, Mathieu Bock.
Oui, aujourd'hui, elle est de 2 ans. Les personnes qui vivent à la campagne meurent en moyenne 2 ans plus tôt que celles qui vivent en ville. On pourrait penser que la pollution et le stress, par exemple, affecteraient les citadins. C'est vrai, mais c'est en réalité l'accès aux soins et notamment aux médecins généralistes qui expliquent cette différence. Cédric Zabot est le directeur de l'Association des maires ruraux de France.
La disparition progressive à la fois du maillage en médecins généralistes et à la fois de toutes ces fermetures de pôles hospitaliers à force de fermer des services, tout ça a des conséquences. Si vous avez des hôpitaux où il n'y a plus les services pour vous traiter ou parce que vous êtes trop loin du CHU qui va pouvoir vous traiter, au final, vous renoncez aux soins. Et on sait que renoncer aux soins, c'est augmenter la probabilité que la maladie que vous avez, eh ben, elle se développe plus rapidement et puis qu'un mauvais rhume se transforme en mauvaise grippe.
Il y a quelques jours, l'Association des maires ruraux de France avait déjà publié une première étude qui allait dans ce sens. On y apprenait que les habitants des zones rurales consommaient 20% de soins hospitaliers en moins que les habitants des villes.
Mathieu Bock, on termine ce journal avec le football. 15e journée de Ligue 1 avec 5 rencontres en cours. Nous en avons sélectionné 2, PSG Lorient et Rennes-Marseille. On commence avec vous, Stéphane Beignet. Vous êtes au Roazhon Park où les Bretons sont menés.
Oui, les Bretons sont menés, 52e minute en seconde période et l'ouverture du score pour Marseille à la 23e avec un gros travail de Payet côté droit, le ballon en retrait, la frappe tendue de Gueye et voilà comment à la 23e l'Olympique de Marseille mène 1-0 mais Gueye a été expulsé, 2 cartons jaunes à la 36e minute, donc les Marseillais tiennent pour l'instant, ils sont réduits à 10 mais tout à fait logique pour l'instant sur l'ensemble de la partie, Marseille mène 1-0.
Merci Stéphane Beignet. Direction maintenant le Parc des Princes où l'on vous retrouve, Julien Froment. Et visiblement, la nouvelle couleur de cheveux de Kylian Mbappé a fait la différence. Hein.
Ouais, les cheveux bleus de Kylian Mbappé eh bien, permettent au Paris Saint-Germain de mener 1-0. But sur pénalty, donc transformé par l'international français. Consécutif à une faute de Gravillon à la 50e minute de jeu. Le défenseur lorientais qui a été exclu par la même occasion. Bon, il faut bien se l'avouer, ça a quand même été une première période très compliquée pour le Paris Saint-Germain qui s'est fait quelques frayeurs. Heureusement pour eux que les Lorientais étaient plutôt maladroits devant les buts. Mais là, forcément, avec cette supériorité numérique, eh bien, Paris devrait dérouler dans le reste de la rencontre. 55e, donc 1-0 pour Paris face à Lorient.
Merci beaucoup Julien Froment, en direct du Parc des Princes. Nous reviendrons vers vous, messieurs, dans quelques minutes à la fin de cette édition. J'ajoute que Lille a tout à l'heure conforté sa place de leader, victoire 2-0 sur la pelouse de Dijon. Le LOSC qui, d'après nos informations, va changer de propriétaire dans les jours qui viennent. Le club va être racheté par un fonds d'investissement luxembourgeois. On passe à la météo. Anissa Haddadi, le temps sera pluvieux à l'est.
Oui, c'est à cause d'une perturbation qui est arrivée il y a quelques heures sur le pays et qui va traverser dans les prochaines heures toute la France. Elle arrive demain matin à l'est. Alors de la Gironde à l'Alsace, la journée va commencer sous la pluie. Ce sont des petites pluies, hein, rassurez-vous. Dans l'après-midi, de l'Auvergne à la Bourgogne, là aussi le ciel sera très nuageux avec des pluies bien plus faibles que le matin. Et puis sur les Cévennes, dans le sud, là les pluies seront un petit peu plus intenses et fortes. À l'ouest, de nombreux brouillards demain matin, mais dans l'après-midi, le ciel se dégage. Nous sommes à l'arrière de la perturbation. La journée est partagée entre nuages et éclaircies. Sur la Bretagne, attention, quelques gouttes toujours possibles dans l'après-midi. Les températures, elles sont toujours douces et stationnaires. 0 à 10 degrés demain matin, 0 pour Gap, 8 à Paris et 10 à Montpellier et 9 à 17 degrés demain après-midi, 12 à Paris et 17 pour Bastia.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com, suivi de l'Interview Echo. Pour la première fois de son histoire, le Bitcoin a dépassé aujourd'hui les 20 000 dollars. Comment expliquer un tel intérêt pour cette crypto-monnaie? Eh bien, c'est l'une des questions que posera Emmanuel Duteil à son invité, Christopher Dembick, chef économiste chez Saxo Bank. A tout de suite.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamo de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street hésite en attendant le nouveau plan de relance budgétaire aux États-Unis.
Oui, on tourne un petit peu en rond à Wall Street, même si les indices sont toujours haut perché. Hein. Le Dow Jones recule de 0,15%, 30 155 points. Le Nasdaq reste au plus haut, on est à plus 0,5%, 12 658 points. Il y a eu deux annonces ce soir qui étaient largement anticipées. Le plan de relance budgétaire, donc oui, qui arrive enfin. 900 milliards de dollars quand même. Le vote devrait avoir lieu demain au Congrès, alors que certaines aides aux particuliers arrivent à échéance à Noël. Pas de surprise non plus du côté de la Réserve fédérale. C'était la réunion de la Fed, la dernière de l'année, qui reste toujours aussi généreuse dans son programme d'achat d'actifs avec des taux d'intérêt toujours à zéro. Donc, pas vraiment de surprise. Des valeurs de technologie toujours bien disposées, même si Apple souffle à 127,80 $, inchangé. Facebook, inchangé aussi. Microsoft monte de 2,4%. Amazon, plus 2,4% aussi. Netflix, plus 1%. Le pétrole aussi est très ferme. 51 $ le Brent, alors que les stocks baisse aux États-Unis et puis l'euro grimpe encore 1,22 face au dollar.
Retour en France où la Bourse de Paris a légèrement progressé de 0,3% dans un marché toujours très calme.
0,31% exactement, oui, pas grand-chose. 5 548 points sur le CAC 40. En attendant le lancement du plan de vaccination en France, les groupes industriels cycliques profitent des espoirs de redémarrage de l'activité en 2021. Ça donne par exemple Katana qui gagne 10% dans le nautisme. Le groupe minier Eramet, plus 5%. Plastivaloir, l'équipementier, plus 3%. Et puis des groupes évoluant dans le secteur de la santé se distinguent. AB Science, plus 38%. AB Science avance à grands pas dans sa recherche contre la maladie d'Alzheimer. Puis Valneva, plus 9%, qui travaille lui aussi sur un vaccin anti-Covid. Valneva en hausse de 9% ce soir à la clôture.
Exception du jour, le secteur bancaire est revenu un cran en arrière avec le Crédit Agricole.
Oui, c'est pas très clair hein, sur le secteur financier. Le secteur bancaire en baisse ce soir. Crédit Agricole, moins 1,8%, 10,48 €. Crédit Agricole qui a décidé de déprécier l'écart d'acquisition dans Crédit Agricole Italia à hauteur de 900 millions d'euros. Des baisses aussi sur BNP, moins 2,3%, Société Générale, moins 0,3%, 17,25 €. Un secteur bancaire donc en berne ce soir. Sur les autres places financières, ça remonte, plus 1,5% sur le DAX à Francfort, plus 0,9% à Londres, plus 0,7% à Amsterdam, et donc le CAC 40 en hausse, timide, mais en hausse quand même, plus 0,31%, 5 548 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de Boursier.com et à demain Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'Interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Christopher Dambic.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le chef économiste de Saxo Bank. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie décentralisée, a dépassé pour la toute première fois de son existence les 20 000 dollars. Et plus largement, ces dernières semaines, elle a littéralement bondi, puisqu'elle a quasiment triplé sa valeur en un an. Ma première question va être extrêmement simple. Pourquoi ?
En fait, on a eu beaucoup de phénomènes qui ont expliqué cela. Il y a eu tout d'abord, pour expliquer cette forte hausse, bien sûr la pandémie, et donc les investisseurs ont cherché d'autres alternatives aux investissements qui étaient un peu classiques. Par investissement classique, j'entends par exemple investir en bourse, dans les actions, dans les valeurs des entreprises. Donc on a eu ce phénomène-là. Et on a eu un autre phénomène qui a eu un effet extrêmement important sur les 6-7 derniers mois, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Concrètement, ce sont des très grandes entreprises, typiquement des fonds de pension, des grandes sociétés financières américaines, typiquement BlackRock, qui ont aussi décidé d'investir dans les crypto-monnaies, se disant « ça peut être un investissement qui est intéressant parce qu'effectivement, on a eu une hausse qui a été phénoménale sur les derniers mois ». Pour vous donner juste un ordre de grandeur, quelqu'un qui investissait en France en euros sur le Bitcoin au début d'année aurait eu une appréciation de plus de 160% de son investissement. Donc concrètement, un retour sur investissement de 160%, il n'y a quasiment rien qui offre cela à l'heure actuelle sur un laps de temps si court.
Oui, et puis je crois aussi ce qui a aidé au fait que les cours montent fortement pour le Bitcoin, c'est que plus que jamais le Bitcoin entre dans notre vie tous les jours, puisque je crois que par exemple PayPal, qui est un des très très grands noms du paiement en ligne, permet maintenant d'utiliser des Bitcoins.
Complètement. Finalement, ce qu'on avait vu il y avait quelques années de cela, on a eu aussi quelques hausses, quelques intérêts du grand public sur le Bitcoin. Mais là, on voit que c'est vraiment un phénomène de fond. C'est pas un épiphénomène où finalement, deux, trois semaines après, l'intérêt diminue. Ce qu'on a constaté, c'est que des grands acteurs du numérique, effectivement, typiquement PayPal, des petites entreprises aussi, si vous allez dans certaines grandes villes, acceptent le Bitcoin. Vous avez aussi les banques centrales qui aujourd'hui s'intéressent aux monnaies virtuelles, aux crypto-monnaies. Donc finalement, il y a un consensus au niveau des différents acteurs et notamment vraiment des entreprises sur le fait qu'il faut accepter le Bitcoin puisque c'est un moyen de paiement finalement comme un autre, à l'instar bien sûr de nos fameux billets ou notre carte bancaire en euros.
Mais est-ce que c'est aussi sûr que tout cela ? Parce qu'il faut peut-être rappeler la naissance du Bitcoin, ça arrive en 2008, c'est un réseau qui a été inventé par des anonymes qui ne dépendent d'aucune institution. Est-ce qu'on peut avoir confiance tout simplement dans le Bitcoin ?
Alors très clairement, je n'inciterai personne à du jour au lendemain décider de se délester de ses euros et de uniquement faire à des achats ou investir en Bitcoin. Le problème aujourd'hui du Bitcoin, c'est que l'évolution du prix est extrêmement importante. Concrètement, il y a beaucoup de volatilité. Je vous l'ai dit, en euros, on a eu quand même une hausse de 160% depuis le 1er
mais
janvier.
Mais rien que ça, ça paraît fou, puisque on sait, il y a une expression dans le domaine de la bourse qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Là, on a l'impression qu'on n'en est pas loin du ciel.
Complètement, mais le ciel aussi peut nous tomber sur la tête assez rapidement et on l'a connu par le passé, c'est-à-dire après des fortes, fortes envolées du Bitcoin, vous avez ensuite une forte baisse, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et on doit rester attentif. Grosso modo, on sait très bien que les monnaies virtuelles type Bitcoin, et il y en a d'autres, feront partie de la vie de tous les jours dans quelques années, mais si on souhaite gagner de l'argent en investissant sur le Bitcoin, soyez très prudent et investissez pas des sommes importantes.
Mais en quoi on aurait besoin de ces crypto-monnaies, de ces monnaies décentralisées, de ces monnaies dématérialisées dans l'avenir ? En quoi c'est une alternative utile ?
Alors vous avez un intérêt qui est complètement immédiat pour tout le monde, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez faire par exemple un transfert international, par exemple de la France vers l'étranger, et si vous utilisez la technologie Bitcoin, donc grosso modo c'est la blockchain, mais Bitcoin ou n'importe quelle autre monnaie virtuelle, vous le faites en un laps de temps extrêmement réduit et pour un coût beaucoup plus faible que vous ne le feriez en temps habituel en recourant à votre banque. Donc ça c'est un élément qui est quand même très important et surtout vous avez quand même d'une partie de la population, faut pas une partie de la population qui est aussi indécise par rapport aux autorités, par rapport aux monnaies effectivement qui sont émises par les gouvernements et se disent ça peut pas durer tout le jour et il faudra utiliser d'autres monnaies. Donc il y a cet intérêt quand même pour le Bitcoin d'une partie qu'on appelle des libertaires concrètement.
On sait aussi que de nombreux acteurs voulaient lancer leur propre crypto-monnaie. On a beaucoup parlé de Facebook et du Libra. On a l'impression que le projet est un peu entre parenthèses en ce moment.
Ah, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a eu des gros acteurs qui se sont désengagés du projet. Vous avez quand même beaucoup d'incertitudes, parce que finalement, entre ces grands acteurs, il y a des enjeux de pouvoir pour chaque entreprise qui est concernée. Dans le même temps, on a quand même les États aussi qui surveillent de très près ce développement des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies, parce que concrètement, c'est vrai que ça met, c'est un risque pour la souveraineté des États lorsque vous avez des crypto-monnaies qui sont émises par des grandes entreprises, notamment du numérique américain. Donc, le risque aujourd'hui sur ces crypto-monnaies, c'est finalement qu'il y a un vent contraire lié à la régulation étatique et du jour au lendemain qu'on souhaite beaucoup plus encadrer l'émission de ces crypto-monnaies. Et c'est un risque qui est vraiment pris en compte aujourd'hui par beaucoup d'acteurs.
Vous allez peut-être trouver ma question débile, Christopher Dembick, mais il y a autant de Bitcoin que l'on en voudrait, on peut en créer autant que l'on veut, ce qui serait extrêmement dangereux, ce que l'on appelle la masse monétaire, si elle était incontrôlée.
Alors justement, ça c'est un point qui est extrêmement important par rapport aux monnaies de tous les jours émises par les banques centrales, c'est que dans le dispositif qui a été prévu à son lancement, en fait, la masse monétaire est limitée. Donc, grosso modo, en fait, vous ne pouvez pas avoir une émission de Bitcoin à l'infini, ce qui pourrait éventuellement créer de l'inflation et ce qui est effectivement négatif pour pouvoir d'achat des ménages. Donc, c'est vraiment une spécificité aussi du Bitcoin, très différente des monnaies émises par les banques centrales et qui fait que vous avez des gens qui considèrent que le Bitcoin est aussi un bon moyen d'éviter des fortes périodes d'inflation.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Christopher Dembick, le chef économiste de Saxo Bank, qui était avec nous ce soir en ligne sur Europe 1. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron nous raconte comment il se réinvente face aux défis actuels. Demain, ce sera le président de Promode. Restez avec nous. Dans un instant, la suite de la 15e journée de Ligue 1. On va retourner au Roazhon Park et au Parc des Princes, où il y a de nombreux buts. A tout de suite sur Europe 1. 22h28 sur Europe 1 et comme promis, on termine ce journal de la nuit avec le foot, 15e journée de Ligue 1 avec 5 matchs en cours. Nous en suivons 2, très importants pour le haut du classement, PSG-Lorient, on va y aller dans un instant. Mais avant, Rennes-Marseille avec vous Stéphane Beignet, les Rennais qui viennent d'égaliser.
Effectivement Julien, 67e minute et Marseille réduit à 10 en première période après l'expulsion de Gueye, eh bien a reculé et encore reculé en seconde période et ce qui devait arriver est arrivé. Parce qu'il y a eu ce très bon ballon de Doku côté droit, le centre directement au premier poteau. Et là, Amari Traoré qui met une tête et le ballon qui est complètement hors de portée eh bien, du gardien marseillais Mandanda. Et voilà comment eh bien, les Rennais sont revenus dans la partie, un but partout. Et ils continuent à attaquer avec Truffert, notamment pour Terrier, la frappe à terre. Et Mandanda qui se couche bien pour stopper ce ballon. Et deux, Cuisance et Strootman vont entrer en jeu pour Marseille, pour peut-être essayer eh bien de stopper ce stade rennais qui revient puissamment. Toujours un partout entre Rennes et l'Olympique de Marseille.
Merci beaucoup Stéphane Beignet en direct du Roazhon Park. Direction maintenant le Parc des Princes où le PSG est en train de dérouler face au Merlu. Julien Froment.
Ouais, exactement. 69e minute de jeu. 2-0 désormais pour le PSG face au FC Lorient. Kylian Mbappé sur pénalty à la 51e. Gravillon, l'auteur de la faute, a été exclu. Et puis à la 60e, à l'heure de jeu, c'est Moïse Kean sur un excellent service de Rafinha eh bien, qui a doublé la mise pour le Paris Saint-Germain, qui a été très brouillon durant la première période. Et puis là, la seconde, avec forcément ce carton rouge, ça a décanté un petit peu la situation. Et surtout, ça permet d'un point de vue comptable eh bien, au Paris Saint-Germain de rester au contact du leader Lille et aussi de Lyon qui joue en ce moment même face à cette équipe de Brest. Voilà, 70e minute de jeu, donc 2-0 pour Paris face à Lorient.
Merci beaucoup Julien Froment. Je précise que Lyon est en train de faire match nul un partout face à Brest. On vous retrouve messieurs à 23h pour le coup de sifflet final. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Bien, ça va très très bien. Ça va très très bien. J'étais en train de penser à cette victoire. Heureusement d'ailleurs.
Ce n'est pas fini.
Bon, ce n'est pas fini, mais bon, normalement, si le PSG ne gagne pas contre Lorient, où va-t-on ?
Oui, hein, bah on va sur la libre antenne 3921 pour exactement vous appeler et témoigner, et ça jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et on se retrouve nous dans une petite demi-heure pour le flash.
À tout de suite.